Aujourd'hui, c'est très improvisé, hein, comme vous voyez, on se parle. Voilà. Mais on va reprendre l'épître aux Philippiens. Et donc, c'est le chapitre 4. Je ne comprends pas. Chapitre 4, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 9. Bon, comme je vous ai dit, le découpage n'est pas très précis dans nos livres bibliques. Donc en fait, on va lire à partir du verset 2, parce que le premier verset du chapitre 4, c'est la fin du chapitre 3. Je ne sais pas si c'est simple, mais vous lisez des choses qui sont parfois voilà, un petit peu... C'est coupé. Donc, verset 2. « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Ish à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile, avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Voilà. Alors, comme je vous ai déjà dit, le problème de cette église des Philippiens, c'était une dispute. Et la dispute, c'était pour une bonne cause, probablement, parce que c'était deux femmes spirituelles qui se disputaient, donc elles avaient un sujet de dispute pour une vraie cause. Elle ne se disputait pas pour une couleur de vêtements ou pour parce qu'on ne lui a pas dit bonjour ou parce que pour une raison futile, mais elle devait se disputer pour une question sérieuse. Mais le problème n'est pas qu'il y ait une question sérieuse, le problème c'est la dispute. C'est d'avoir une querelle. Nous ne devrions pas avoir de querelle. Et Paul, dans ces versets que nous avons lus, nous donne la méthode pour régler la question des disputes. C'est quand il y a une divergence entre quelqu'un, une divergence d'opinion, une divergence de point de vue, c'est en général, les personnes vont voir quelqu'un qui n'est pas concerné et lui explique combien elle est frustrée, combien il y a de problèmes dans cette église. Et combien on ne sait pas s'occuper des âmes perdues, on ne sait pas s'occuper de ceci, on ne sait pas s'occuper de ça. Il y a toujours de bonnes raisons pour se disputer. Mais c'est Satan qui nous dit que c'est une bonne raison. Mais il n'y a pas de bonne raison. Nous avons toujours tort de nous disputer. Parce que la querelle, la dispute, c'est la mésentente, fait que dans le corps de Christ, il y a une brèche, une fissure. Et c'est ce que Satan guette, c'est de nous amener à avoir une division. Mais parfois la division n'est pas visible à l'œil nu. Je vais vous expliquer une chose. Ça, c'était mon métier. J'étais tailleur de pierres. Voilà, j'ai taillé des pierres. Au début, quand j'étais adolescent, j'ai appris à tailler des pierres. Voilà. Et vous avez une pierre parfaite. Vous la prenez et vous voyez dans cette pierre ce que vous allez faire, ce qui va rentrer dans le mur. Et puis, vous commencez à la tailler. Alors, vous dégrossissez. Vous commencez à tracer les plans et savoir exactement les proportions et les dimensions. Elle ne peut pas aller au-delà parce que si. Et puis, vous commencez à tailler, vous taillez, vous passez du temps. Et à un certain moment, elle se casse. Vous n'aviez pas prévu qu'elle se casse, mais elle s'est cassée. Et quand vous regardez la cassure, vous voyez que cette pierre était fissurée. Vous ne l'avez pas vue, parce que la fissure est invisible à l'œil nu, mais elle existe quand même. Et les chocs des outils amènent, avec les vibrations, à ce qu'il y ait une désolidarisation des deux parties. Elles sont solidaires dans une certaine mesure, mais avec les chocs, elle finit par montrer qu'en fait elle est fissurée. Et c'est exactement la même chose dans une église. Il y a parfois des failles invisibles à l'œil nu, mais elles existent. Ce sont des divergences d'opinion, des divergences sur un ceci, sur cela, comment on organise telle chose ou telle autre chose. Ce peut être sur des questions pratiques, ça peut être sur des questions spirituelles, ça peut être sur des méthodes d'évangélisation ou des méthodes pour faire une chose ou une autre. Et les raisons, ce n'est pas important que je les nomme toutes, mais vous voyez à peu près, on peut être divisé sur une question très valable. Est-ce que les présidents doivent se faire de cette manière ou de cette manière? Et je peux dire qu'il y a au moins 3 ou 4 manières de faire des présidences. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y a des gens qui préfèrent le porte-à-porte, d'autres qui préfèrent donner de main à main dans la rue, d'autres qui préfèrent inviter à la sortie, etc. etc. Hein. Et chacun dit, mais ma méthode, c'est la meilleure. Et j'ai entendu même des prédications sur les méthodes, comment on doit faire. Mais je vais vous dire, les méthodes, les manières de faire, tout cela, ces choses-là n'ont aucune importance. Aucune. S'il y a des personnes qui disent, ah mais je me rappelle d'église, hein, nous, dans notre église, nous n'avons pas d'instruments de musique. Les instruments de musique, alors, le groupe n'existe pratiquement plus maintenant. Mais il n'y avait pas d'instruments de musique. Vous les retrouviez, il n'y a pas de pasteur, ils étaient tous réunis autour de la table de la Sainte-Seine, et on ne peut pas réunir beaucoup de monde autour de la table de la Sainte-Seine, hein, mais ils ne sont jamais plus que 10-15 personnes dans leur groupe. Mais eux sont très fiers de dire, nous, au moins, nous ne faisons pas comme un tel ou comme ce groupe-là, et parce que, mais ce sont, je vais vous dire, ce sont des questions de forme, des questions sans importance. Qu'il y ait un instrument de musique ou qu'il n'y ait pas d'instrument de musique, qu'il y ait ceci ou qu'il y ait cela, ou une chose ou une autre, tout ça n'a aucune importance. Le problème, c'est d'en faire un sujet de division, un sujet de querelle. Si bien que les personnes qui pourraient s'entendre ne s'entendent plus, ne se comprennent plus, et même ferment complètement toute capacité à entendre et à comprendre. Parce qu'ils se disent, c'est nous qui avons raison, les autres ne peuvent avoir que tort. Après, il y a des sujets sur lesquels, oui, comme ces femmes se disputaient sur une bonne raison. Et nous n'avons pas l'habitude de discuter sur certains sujets, parce que c'est clair que dans notre Église, par exemple sur les sujets de doctrine, on sait quelle doctrine nous avons. Nous avons une confession de foi, et cette question-là ne se discute pas. Et nous faisons attention qu'il n'y ait pas de sujet de divergence et de querelle dans notre Église sur ces questions-là. Mais nous devons donc faire très, très, très attention. Parce que Satan essaye toujours de créer une division. Mais là où il y a la division, l'Esprit de Dieu ne peut plus travailler. La division stérilise l'Église. Alors vous êtes divisés sur des questions futiles, les manières de s'habiller, ceci et cela, les formes et tout, vous créez une division sur un sujet sans importance, mais la division est importante, parce que l'Esprit de Dieu est attristé, et il ne peut plus agir. Il est bloqué dans l'Église, on ne peut plus rien faire, parce que on est en divergence sur une question tout à fait futile, sans aucune importance. C'est le problème n'est pas le sujet lui-même, c'est la dispute, c'est la querelle, c'est la mésentente, la division. Nous devons donc faire très très attention. Il y a des choses sur lesquelles, mettez de côté, ça n'a aucune importance. Le frère ou la sœur vous a blessé, a dit quelque chose, a fait, mettez de côté, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de garder l'unité dans l'Église. L'unité est le plus important. Nous n'allons pas nous disputer sur ces questions-là. Ces questions-là, si certains veulent se disputer, qu'ils se disputent, mais nous ne voulons pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est donc nous sommes à un certain moment où nous rencontrons l'esprit de division. Voilà. Hein, je dis, il y a un esprit de division dans l'Église. On avance jusqu'à ce moment-là. Voilà. Et quand nous sommes dans cette situation, que faisons-nous? Et Paul nous donne la solution. Il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si vous ne pouvez pas vous réjouir dans le Seigneur, si quand vous rencontrez le frère ou la sœur, vous ne pouvez pas vous réjouir, il y a un problème. Donc il dit, et ce sont tous les versets que nous avons lus jusqu'au verset 9, c'est dans cette question de division, alors vous avez, on cherche la joie, hein, la joie dans le Seigneur, mais la joie c'est un fruit de l'esprit. Et alors il va plus loin et dit, mais ayez une réputation de douceur. Il dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire, ayez la réputation d'être doux. C'est quelque chose, vous savez. Ce ne vient pas en un jour. C'est la douceur de Christ. C'est la fréquentation de Christ qui transforme notre vie, qui transforme notre cœur, qui transforme notre comportement en douceur. Au lieu d'avoir, vous avez l'habitude de fréquenter Christ, Christ est toujours avec vous, vous êtes toujours dans la communion avec Christ, et il y a quelque chose de son caractère qui s'imprime en vous. Vous ne pouvez pas vivre avec Christ sans devenir semblable à Christ. Il y a une proximité de Christ qui vous change, qui transforme, qui nous amène à lui ressembler. Et c'est la douceur de Christ. C'est Paul parlait de la douceur de Christ. C'est le disait aux Corinthiens, par la douceur de Christ. Mais nous devons avoir cette réputation de douceur. Je vais vous donner un proverbe. En français, nous avons un proverbe. On dit, et je l'ai trouvé, j'ai les cartes postales de mon grand-père. Mon grand-père écrivait à ma grand-mère. Et il était militaire. Et il disait, je suis dans cette caserne, tranquille comme Baptiste. Voilà, c'est un proverbe. Mais comme Baptiste, comme Jean-Baptiste, non. Comme un Baptiste. En français, nous avons le proverbe « tranquille comme un Baptiste ». Et nous sommes Baptistes. Notre église est une église Baptiste. C'est les Baptistes, dans le passé, en France, avaient la réputation d'être des gens tranquilles. Des gens sans histoire, sans problème. Et c'est tellement vrai que c'est passé dans un proverbe qui passe, maintenant on le dit beaucoup moins, mais j'étais très surpris de le trouver sur une carte postale de mon grand-père. Mais les chrétiens avaient cette réputation d'être des gens tranquilles, des gens paisibles, des gens sans querelle, sans animosité, sans rancune, sans des gens doux. Des gens paisibles, des gens tranquilles. Ce que nos ancêtres étaient, eh bien, ils nous ont transmis de le continuer. Nous ne pouvons pas être différents. Si eux étaient meilleurs, si eux ont atteint un certain degré, nous ne pouvons pas être inférieurs. Et nous devons aller de l'avant. Et notre douceur doit être connue de tous les hommes. Et les gens pourraient dire... Oh, mais dans cette église, vous savez, il n'y a jamais de problème. Par contre, je peux vous dire, il y a des églises. Ce sont des paniers de crabes. Ils se pincent, ils se mordent, ils se font des histoires, ils se font des querelles, ils se font des procès. Ce n'est pas notre église, heureusement, hein. C'est les autres. Mais examinez et regardez si dans votre cœur, il n'y a pas de rancune contre quelqu'un, il n'y a pas d'animosité. Parce que ça, c'est une faille. Et Satan va travailler là-dessus pour l'agrandir et en faire quelque chose qui est une division. Ça peut être une division future. Ça commence par quelque chose de tout petit. Soyez doux, sans rancune, sans animosité. Soyez des gens paisibles. On vous a marché sur les pieds? Oui? Personne ne peut dire non. Jamais personne ne m'a marché sur les pieds. Tout le monde, un jour ou l'autre, quelqu'un a marché sur vos pieds. Mais on a marché sur les pieds du Seigneur Jésus aussi. Hein. On lui a arraché la barbe, on lui a craché dessus, on l'a frappé. Il n'a pas répondu. C'est lui qui était injurié, ne rendait pas l'injure. Sa douceur était visible dans ces moments-là. Si vous êtes doux, quand tout va bien, je vous félicite. Mais la véritable douceur se manifeste dans l'épreuve. Toutes les qualités se manifestent dans l'épreuve. Si vous êtes travailleur, eh bien montrez-le-moi dans le travail. Si vous êtes travailleur dans votre lit, il y a un problème. Si vous êtes travailleur assis devant sur votre canapé en train de regarder la télévision, il y a un problème. Quand quelqu'un est travailleur, c'est au travail qu'il est travailleur. Si quelqu'un a la foi, c'est dans les moments où il est sollicité à l'incrédulité. Si vous êtes doux, eh bien c'est dans les moments où vous êtes agressé, où on vous fait des problèmes et vous avez des tensions. Et c'est là que vous manifestez la douceur de Christ. Et vous avez envie de réagir, hein, parfois. Vous dites non. Je suis chrétien. Je cherche d'abord la gloire de Christ. Je ne cherche pas mes avantages. Je cherche Christ. C'est tout ce qui peut ternir Christ, la relation avec Christ dans ma vie. Cette chose-là, je la mets de côté. Parce qu'elle est mauvaise. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est un programme, vous savez. Ce n'est pas en un jour. Et c'est dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et on désire la douceur, la tranquillité, la paix avec tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne dites rien ou que la mollesse n'est pas la douceur. Hein. Il y a des gens qui sont mous, ils ne sont pas doux. Pas toujours la différence. Mais on pourrait être dur, mais nous avons choisi d'être doux et de dire les choses, de dire Seigneur, cette question-là ne me concerne pas. On m'a fait du tort à moi, mais en fait, la personne à qui on a fait vraiment du tort, c'est à toi. Et c'est toi qui dois intervenir. Moi, je n'interviendrai pas. Je laisserai couler la chose. Que l'on fasse ce que l'on veut de ma vie. Je regarde vers toi. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui es mon Sauveur. C'est toi qui es ma joie. C'est toi qui es mon tout suffisant. C'est toi, en toi que je me réjouis. Voilà. Donc, c'est cette douceur. Et c'est très important. Et donc, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand il y a un sujet de dispute, laissez tomber. Sans rancune, remettez entre les mains du Seigneur. Et c'est ce qu'il dit. Ne vous inquiétez de rien. Hein, c'est dans ce contexte-là, de cette querelle avec ces personnes. Et j'ai prêché souvent sur ce texte biblique par rapport à la prière. Mais le vrai contexte de cette exhortation, c'est par rapport à une querelle, à une dispute entre ces deux personnes. Et c'est « ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins, intervenez dans la prière ». C'est là que vous avez la plus grande efficacité. Vous êtes dans la prière, vous dites « Seigneur, je te demande de venir à mon secours. Je ne sais pas comment faire. Cette situation me dépasse ». Je me rappelle de l'histoire de cet homme. Il était dans une très grande dépression. Sa femme était alcoolique et elle avait décidé de divorcer. C'était un chrétien. Et sa femme était chrétienne aussi. Mais quelque chose s'était passé. Et sa femme avait dégringolé complètement. Complètement. Et puis un jour, il apprend que son meilleur ami vivait dans l'adultère avec sa femme. Et c'est pour ça que sa femme était tombée dans l'alcoolisme et tout ça. Et c'était son meilleur ami. Il venait à la maison et tout, il les recevait. Il a passé une nuit terrible. Terrible. Et dans cette nuit, le diable a déchiré son âme. Hein. Et il a prié, crié à Dieu. Et à la fin, il est allé voir cet ancien ami, hein, cet ami, cet ennemi, caché en ami. Il l'a rencontré face à face. Il lui a dit, tu as ruiné ma vie. Mais Jésus-Christ m'a pardonné. Je te pardonne aussi. C'est terrible, vous savez. Il a pardonné. Il lui a tendu la main. Il lui a dit, fais ce que tu veux. Mais moi, je ne donnerai pas accès au diable. Je ne veux même pas avoir une mauvaise pensée. Et je dis, cet homme-là est un chrétien. Ça, c'est la réponse d'un chrétien. Après, il y a certains qui diront, moi, j'ai sorti mon poing et je l'ai mis dans la figure. Hein. Il a bien compris. Et où sommes-nous? Où est la différence entre quelqu'un du monde et ce chrétien qui met le poing dans la figure? Celui qui pardonne. L'impardonnable. La chose la plus grave qui puisse se faire. Cet homme-là, c'est un chrétien. Il marche à l'image de Christ. Oh, ben, je peux dire, ce n'est pas sans un combat terrible. Hein. Cette nuit a été terrible pour lui. Où son âme était déchirée dans tous les sens. Hein. Et il y a eu un conflit. Et à la fin de cette nuit, il a remporté la victoire. Il a dit non, je serai un chrétien jusqu'au bout. On peut me faire tout ce qu'on veut. Je pardonnerai. Comme Christ m'a pardonné, moi je veux pardonner aussi. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons de forts sujets d'inquiétude. Mais si vous avez des sujets d'inquiétude, vous avez une solution. C'est la prière. C'est la prière où on crie à Dieu et on dit « Seigneur, interviens, interviens. Parce que je suis à bout de force, à bout de ressources. Je suis au bout de moi-même. Je suis incapable d'aller plus loin. » Et regardez ces prières. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est presque un programme dans la prière. C'est un déroulement de la prière. Vous criez à Dieu, vous demandez, c'est des supplications. Vous êtes dans l'agonie dans la prière. Et vous arrivez au bout de vous-même. Et à un certain moment, vous dites, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te rends grâce. Que tu m'exauces d'une certaine manière ou d'une autre. Pour moi, ta réponse sera toujours la meilleure. Je me confie en toi. C'est l'action de grâce. N'oubliez jamais l'action de grâce. Parce que dans l'action de grâce, il y a la foi. C'est quand on loue le Seigneur, on rend grâce à Dieu. Vous avez demandé. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, demandent. Ils supplient, et puis ils s'arrêtent là. Mais il y a un moment où on rend grâce à Dieu. On dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu es venu à mon secours. C'est Dieu agit comme il le veut. C'est que ça soit maintenant ou plus tard, eh bien, il agit quand même. Mais nous, eh bien, par la foi, on rend grâce à Dieu pour la solution. Voilà, pour la manière dont il va agir. Et dans cette querelle, cette tension terrible qu'il y avait entre ces deux femmes, eh bien, elles n'avaient pas pris les mesures qu'il fallait. Aucune des deux n'était allée au trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour demander à Dieu d'intervenir et d'apporter une solution. Elles avaient préféré le chemin de la divergence, de la dispute. Mais s'il y avait un problème, alors le problème devait se résoudre dans la prière, pas dans la querelle. C'était une erreur de stratégie. Et le plus facile, c'est d'entrer dans le chemin de la colère, et de la dispute, du conflit et de la division. Mais quand il y a un problème, on prie. Nous sommes chrétiens. Si nous entrons dans le chemin de la division, il n'y a pas de différence entre un parti politique et certaines églises. Hein. Ils se disputent, pof, ils ont fait deux partis maintenant. Et vous savez, c'est, je me rappelle les partis politiques qui avaient pignon sur rue dans les années 60, 70, 80, qui n'existent plus. Ils étaient nés d'une division, et puis ils ont disparu. Et puis ils se sont rétablis, puis ça se dispute encore. Mais ça, c'est le monde. Tandis que dans l'Église, on apprend mais qu'il y a des disputes, et des querelles, et des tensions, et des divisions. Nous devons prier, intercéder, demander à Dieu d'intervenir dans notre cœur. C'est vrai que les autres ont tort, hein, mais nous n'avons pas raison non plus, hein. Nous avons tort. Et nous disons, mais je ne me suis pas disputé, c'est pas moi qui me suis disputé, c'est eux. Oui, mais vous avez regardé des gens se disputer, et vous n'êtes pas intervenu, dans la prière bien sûr, pour demander à Dieu, Seigneur, donne-nous grâce, ton Église est en si petit nombre, et nous sommes si méprisés sur cette terre. Et il faudrait encore qu'il y ait un sujet de mépris dans l'Église par rapport au monde. Que le monde nous dit, ah, regardez, ces chrétiens, ils sont encore en train de... Et il y a toujours quelqu'un qui est témoin de quelque chose, hein, du monde. Et j'étais très étonné que à des centaines de kilomètres, on me parle, oui, mais dans cette église, et d'où tu sais ça? Oui, mais on me l'a dit, et c'est vrai. Et ça se sait à des centaines de kilomètres, et par des gens qui n'ont rien à voir avec cette église, qui ne la fréquentent même pas. Et vous dites, mais c'est pas possible que l'on sache ces choses-là. Mais ne vous en faites pas. Satan s'arrange pour que tout se sache. Mais nous devons faire, nous, attention. Ce que Satan ne peut pas dire, et il ne peut pas inventer. Si nous sommes unis, s'il y a de l'amour fraternel entre nous, s'il y a de la complicité entre nous, parce que, ah, on se dit, ah, même, j'aime tous mes frères. Mais c'est beaucoup plus que cela. Dans la vie chrétienne, nous sommes un corps et il y a une complicité, il y a une communion les uns avec les autres. C'est beaucoup plus que d'avoir des sentiments les uns avec les autres. Ah, j'aime tous mes frères. Souvent, quand nous avons dit ça, ça veut dire qu'on ne se dispute pas. Je les aime. Oui, mais ça veut aussi dire je les aime et je les supporte. Hein. Mais les autres nous supportent, hein. Nous les supportons, ils nous supportent. Nous avons aussi notre caractère. Et nous avons aussi nos petites lacunes et nos trucs et nos machins qui font que ce n'est pas... Mais c'est beaucoup plus que d'avoir des sentiments. Nous devons avoir une action vis-à-vis des autres. Ils sont précieux à nos yeux. Si jamais il y a quelqu'un qui ne vient pas ou qu'il y a un malentendu entre cette personne et nous, mais ne laissez pas passer les jours... apporter une solution, chercher une solution dans la prière, intercéder, lutter dans la prière et remporter des victoires dans la prière. Vous apprendrez à prier de cette manière-là. Hein. Mais la réaction d'un chrétien, c'est la prière, c'est le trône de la grâce, c'est d'aller vers Dieu, dire Seigneur, il y a un problème, je n'y arrive pas, je ne comprends pas, cette situation me dépasse, je suis dans la douleur, dans la tristesse, dans la peine, il y a une tension, il y a un problème, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je te demande, toi, d'intervenir et de venir à mon secours. Et vous savez, quand nous crions à Dieu, eh bien l'éloquence, elle vient. Hein. Et prenez l'habitude d'aller au trône de la grâce, dès que vous sentez une ombre entre un ou l'autre, ou qu'il y a un problème dans l'église, ou des tensions, ou qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est la solution divine. C'est la solution que Paul nous a donnée, inspirée par le Saint-Esprit. C'est dans le contexte de la division et des tensions entre les frères et sœurs. Et le verset 7, « Et la paix de Dieu... qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà. Et quand nous avons prié, alors la paix de Dieu intervient dans nos cœurs. Je me rappelle de cet homme. Quelqu'un est venu le voir en pleine nuit. Il a dit, la femme d'un tel est en train de partir. elle est mourante. Et à cette époque, les médecins n'avaient pas les compétences d'aujourd'hui, hein. Et certaines maladies qui se guérissent bien maintenant ne se guérissaient pas, hein. C'était la mort, voilà. Et alors, le pasteur s'est levé et il a commencé à prier. Et puis, il y avait dans son cœur le Dieu va m'exaucer. Il faut que je continue à prier. Et il a prié. Et il est allé dans l'église, parce que c'était une petite ville, donc l'église était juste à côté. Il est allé dans l'église, il a prié et intercédé. Il n'avait pas remporté la victoire. Et puis il est rentré chez lui, il a prié encore. Et puis il est sorti dans la nuit, il est allé se promener un petit peu, prier, intercéder. Et puis il est revenu. Et à un certain moment, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est arrivée dans son cœur. Et la personne qui l'a averti lui a dit, vous savez, il lui a dit, elle guérira. Le Seigneur m'en a donné la certitude. Elle mourra certainement, mais pas de la maladie dont elle est atteinte aujourd'hui. Et quand la personne est rentrée, la dame allait mieux, beaucoup mieux. Et il y a, à ce moment, la paix est intervenue dans le cœur de cet homme. Il a prié et prié, prié. Il y avait une angoisse, une tension, jusqu'à ce que Dieu intervienne, exauce, réponde. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est quelque chose, vous savez. Il y a des moments où dans la prière, vous avez la paix, une paix parfaite. Ce n'est plus le temps de prier. C'est le temps de rendre grâce et de louer le Seigneur parce que vous êtes exaucé. Et combien de personnes ont prié pour des réveils, ont prié pour des sujets. Ils ont dit, maintenant, Dieu envoie sa bénédiction. Maintenant, Dieu va intervenir. Maintenant, les âmes seront sauvées. Maintenant, il y aura ceci et cela. C'est parce qu'ils ont prié fermement, avec intensité, jusqu'à ce qu'ils soient exaucés. Mais nos prières souvent, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, on aimerait bien qu'il y ait des gens sauvés. Et puis, à la fin, on peut discuter de la pluie et du beau temps et de toutes sortes de choses. Ben voilà. Mais il n'y a pas vraiment eu une intensité dans la prière. Nous n'avons pas été sérieux dans ce que nous avons demandé. Parce que quand vous êtes sérieux dans ce que vous demandez, à la fin de la réunion de prière, vous n'êtes pas prêt à discuter à droite et à gauche de toutes sortes de choses. C'est si vous pouvez discuter de n'importe quoi après avoir prié, alors c'est que vous n'avez pas pris vraiment au sérieux les choses que vous avez demandées. Parce que il y a un fardeau pour les âmes perdues, un fardeau pour les frères et sœurs, un fardeau pour les uns et les autres qui pèsent lourdement. Quand ils pèsent lourdement, je peux vous dire, on ne parle pas de futilité. Si vous avez pris conscience que le monde autour de vous était perdu, alors vous ne pouvez pas le regarder d'une autre, comme vous l'avez toujours regardé. Il faut à un moment que nous regardions en nous disant, ils sont perdus, ils sont loin de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Je me rappelle, et j'étais à Toulouse, il y avait un supermarché juste à côté de l'église, qui était sur plusieurs étages, parce que c'était le centre de Toulouse. Et j'étais monté à un certain endroit où on voyait tout le monde. Et il y avait une foule, ça grouillait, hein. Et je regardais, et me suis dit, mais ils sont perdus. Ils sont perdus. Et j'étais attristé de mon cœur dur. J'étais pas plus ému que ça. Savez-vous ce que c'est qu'être perdu? Perdu. Pour l'éternité. C'est l'enfer n'a pas de fin. C'est un châtiment éternel. Et nous souhaitons la prospérité éternelle. Nous souhaitons d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et si nous disons, ben, cette éternité a une fin. Vous êtes dans la présence de Dieu, mais ça, c'est pas éternel. C'est éternité, ça veut dire que c'est temporaire. Vous allez dire non. Éternel, c'est éternel. Mais si votre félicité et votre prospérité dans la présence de Dieu est éternelle, le jugement et la condamnation pour les perdus est aussi éternel. Parce que c'est le même mot qui est employé. Et quand vous rencontrez des âmes perdues, elles sont perdues. Et c'est pour l'éternité. Et c'est pas peu de choses, vous savez. Et cela doit intensifier nos prières. On ne peut pas rester indifférent. On regarde ces âmes, on se dit, mais Seigneur, elles sont perdues. Et mon cœur n'est pas touché. Je ne suis pas plus ému que ça. C'est tout ce que je fais pour les perdus. Il y a là une exhortation à intercéder, à lutter dans la prière, à combattre pour les bonnes causes, pour les choses qui en valent la peine. Oh Seigneur, je te demande parce que j'aimerais bien changer de... Et puis, tu sais, la cuisine, elle n'est pas tout à fait... J'aimerais bien... Et il y a des chrétiens qui m'ont dit, tu sais, moi je prie Dieu pour chercher... Je cherche la volonté de Dieu si je... La couleur de mes chaussures. Eh oui. Quelqu'un m'a dit ça un jour, mais je lui ai dit, vous êtes inquiet pour la couleur de vos chaussures alors qu'il y a un monde perdu à votre porte. Ayez des chaussures à vos pieds ou n'en ayez pas. Ça n'a aucune importance. Je pense que la majeure partie de l'humanité n'a pas de chaussures à ses pieds. Et il y a des chrétiens qui sont heureux dans leur cœur et qui n'ont pas de chaussures à leurs pieds. Et ils sont en communion avec Dieu. Et nous inquiétons de la couleur des chaussures. Ah ben, vous savez, je dois chercher la volonté de Dieu si je change la voiture cette année ou si... Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Je ne dis pas que ce n'est pas sans, que c'est sans importance, mais je dis qu'il y a plus important que ça. Il doit y avoir dans notre cœur un déchirement. Quand il y a des querelles et des tensions dans l'Église, c'est dramatique. C'est dramatique. Alors nous allons prier pour une couleur de chaussure. Nous allons prier pour chercher la volonté de Dieu s'il faut changer de voiture ou pas. Et nous ne prions pas pour les âmes perdues. Perdues pour l'éternité. Il y a vraiment quelque chose. Notre cœur est vraiment dur, vous savez. À la limite, je dirais, c'est monstrueux. Parce que nous n'avons pas pris la mesure de ce qu'est l'enfer, de la perdition éternelle et de la valeur d'une âme. C'est le Seigneur Jésus a donné sa vie. S'il n'y avait eu qu'un seul pécheur sur la terre, un seul et unique pécheur, Christ serait venu et aurait donné sa vie. Et j'aurais aimé, si j'avais été le seul pécheur, que Christ donne sa vie pour moi, pour être sauvé. Et vous savez, quand il y a des tensions, qu'il y a des querelles et qu'il y a des divisions, l'Église n'est plus un terrain favorable pour que les âmes viennent. Parce que dans une Église, il y a... c'est la forme d'un berceau, vous savez. Les âmes naissent de nouveau dans une Église. Et elles sont entourées dans l'Église. Elles sont encouragées dans l'Église. Elles sont fortifiées dans l'Église. Elles apprennent dans l'Église. Mais si l'Église est divisée, si on est en train de se disputer sur une chose et sur une autre, et sur des futilités, et sur des personnes, et sur... Mais nous avons manqué complètement le but. Complètement le but. Il y a un monde perdu. Il y a la cause de Christ. Satan triomphe et rugit. Il tient le monde de plus en plus. Et nous, eh bien, nous sommes en train de regarder... « Oh, mais il dit ceci, mais il n'a pas fait ça, mais il est ceci, il n'est pas ça. » Mais priez, intercédez, demandez à Dieu d'intervenir, d'enlever cette dureté, ce cœur dur. Parce que je pense que Christ doit verser des larmes de notre dureté. Nous trouvons dans les évangiles, il était affligé par la dureté de leur cœur. Affligé. Je me rappelle de ses disciples qui sont allés, le Seigneur Jésus allait pour donner sa vie, hein. Il allait à Jérusalem et il y a des gens qui n'ont pas voulu le recevoir. « Veux-tu que nous demandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Les juge sévèrement, hein, ses disciples. Mais nous avons les mêmes pensées par rapport à ceux qui nous offensent. Nous avons le même, on aimerait bien que... Le châtiment intervient tout de suite, hein, que Dieu justifie moi. C'est quelque chose, vous savez. Et le Seigneur Jésus était affligé. Il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pas le Saint-Esprit, hein, sûrement pas. L'autre, le mauvais esprit. Mais il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne louange, soit l'objet de vos pensées. S'il y a des pensées de revendication, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Les pensées doivent être contrôlées par Christ. Parce que si vous voulez, un jour je me suis dit, mais quelles sont ces... Si je veux réunir toutes ces choses qui sont dites là, qui sont l'objet de mes pensées, si je réunissais en un seul objet, c'est Christ. Christ doit remplir ma vie et mes pensées. Et là, ça comble tout. Mais après, s'il y a de l'amertume dans le cœur pour une chose ou une autre, ça ne rentre pas. Les pensées ne sont pas sous contrôle. Si j'ai pensé d'orgueil, c'est moi qui suis, hein, et puis où je non mais on m'a pas on ne m'écoute pas, mais on n'est pas attentif à mes projets, mes pensées et ma volonté, voilà, personne n'en tient compte. Si je dis quelque chose, eh bien les gens, et combien de paroles nous avons entendues ou nous prononçons. Et il y a celles que nous prononçons, mais il y a celles que nous ne prononçons pas et qui sont dans notre cœur et que nous gardons. Et il dit l'objet de vos pensées, pas vos paroles, parce que ça commence dans les pensées et ça finit dans la bouche. C'est contrôler d'abord les pensées, vous contrôlerez votre bouche. C'est là que le problème commence là. Quand on s'imagine, quand on entretient des mauvais trucs, des mauvaises choses, sur une telle, il n'a pas dit ça, il n'a pas fait ceci, ils sont pas ça, ils ont là. Et n'entretenez rien de ce genre. Priez, intercédez. On doit avoir le réflexe. La personne n'a pas compris. On le prie pour elle. Nous sommes frustrés parce que on prie pour elle. On va vers le trône de la grâce. On dit, Seigneur, interviens. Oh Seigneur, aie pitié de cette personne. Je veux avoir la compassion que tu as pour les âmes perdues, pour tes enfants, pour tes brebis. Je veux avoir de la compassion dans mon cœur, avoir de l'amour, être rempli d'amour, de douceur, de patience, de bonté, de tout ce qui est Christ. Et là, eh bien, nous avons un bon terrain. L'Église s'affermit, l'Église grandit, l'Église s'épanouit, l'Église devient plus forte, elle devient plus solide, parce qu'elle est unie, parce qu'elle est liée par de véritables liens, et les liens, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui les établit, c'est lui qui les fortifie, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui est notre ressource suprême. Ne laissez pas gagner, ne laissez pas entrer les mauvaises pensées, les divergences, les ceci et les ça. C'est filtré, dit ça. Ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Cette pensée, elle vient de l'ennemi. Cette revendication, cette sensibilité, cette rancune, c'est ceci et c'est ça. Tout ça, ça vient de l'ennemi. C'est pas de Dieu, ça. Et qu'au contraire, il y a dans notre cœur des louanges et de l'adoration. Rendez grâce à Dieu pour les frères et sœurs. Vous êtes privilégiés d'avoir des frères et sœurs tels qu'ils sont. Ah ben vous dites, mais non, tels qu'ils sont. On les aime, c'est nos chers frères et sœurs. On se voit les visages, je vois vos visages, je vous aime. Je suis heureux de vous voir. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. Je vois les sourires, je vois le frère, je vois la sœur. Et je me dis, mon frère, ma sœur, quel privilège, quelle grâce nous avons d'être en Christ, d'avoir le même Père, d'avoir le même Sauveur, d'être de la même famille, et nous serons pour l'éternité ensemble. C'est merveilleux, c'est au-delà de toute imagination. Oh, mes frères et sœurs, ne laissez pas l'ennemi gagner dans l'Église. Vous n'êtes pas au milieu d'une querelle, mais vous êtes au courant d'une querelle peut-être. Alors intercédez, prenez le chemin qui est décrit dans la parole de Dieu. Et Paul pouvait dire, ce que vous avez vu, entendu de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Parce que c'est ce qu'il faisait. Et non seulement il le disait, mais il le pratiquait. Et il dit, c'est possible, parce que je le fais. Donc si moi je le fais, alors c'est possible pour tout le monde. C'est quelque chose, vous savez, c'est tout un programme. Et c'est merveilleux. Ne laissez pas les subtilités de l'ennemi et toutes ces choses-là. Chassez-le Il n'a aucune place dans l'Église, aucune place dans votre cœur. Laissez gagner Christ. Et c'est Christ qui est le premier. Et c'est Christ qui est le Seigneur. Et c'est Christ qui doit être honoré et glorifié dans l'Église. Alors s'il y a des médisances, des mécontentements, des rancunes, des ceci et cela, mettez en règle. Et s'il le faut, eh bien, il faut aller voir le frère, la sœur et lui dire « J'ai eu tort, je me suis trompé, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. » Et puis, je peux vous dire, rentrez dans le chemin de l'humilité. Parce que l'orgueil va vous dire « J'ai raison, jamais je lui demanderai pardon, jamais. » Et je connais quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Jamais je demanderai pardon. Jamais je ne m'humilierai, je dirai ça. La personne est balayée. En une semaine, elle a été balayée. Elle m'a dit ça. La semaine d'après, elle n'était plus. C'était fini. C'est le Seigneur l'a enlevé de l'Église, complètement. C'est les personnes qui ne pardonnent pas, qui ne sont pas capables de s'humilier, de dire « j'ai eu tort ». Je me rappelle d'une personne qui m'a manqué de respect. Et bon, je ne peux pas raconter toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps. Mais il m'a manqué de respect. Et puis je suis allé le voir. Je lui ai dit, tu sais, si je tords, je te demande pardon. Mais lui avait tort. Mais je me suis dit, peut-être que dans une attitude, il n'a pas compris. Je ne sais pas. Mais si j'ai tort, je suis allé lui demander pardon. Je me suis humilié, je lui ai demandé pardon. Si j'ai tort, voilà. Je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je te demande pardon si j'ai fait quelque chose. Alors il me dit, c'est bien de demander pardon, parce que tatati tatata, il est entré dans un discours très dur et très violent. Mais en fait, c'est lui qui m'avait manqué de respect. Il avait dit quelque chose qui... voilà. Mais des années plus tard... cet homme-là a disparu. Il a disparu de ma vie, totalement, complètement. J'ai appris plus tard, bon, des événements. Mais il y a des personnes, vous savez, quand elles n'acceptent pas, qu'elles ne disent pas « j'ai eu tort », parce que nous sommes des êtres humains comme les autres. L'orgueil est malvenu. Qu'est-ce que nous sommes ? Des petits de rien du tout. L'orgueil n'a aucune valeur, aucune raison d'être. Nous croyons, je ne demanderai pas, mais allez-y, faites l'effort. Ne laissez pas la division durer dans l'Église. S'il y a quelque chose qui ne va pas, alors mettez-le en règle. Choisissez le chemin de la paix, de la douceur, de la patience. Choisissez le chemin de Christ. C'est le chemin aussi de la parole de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez, quand dans une Église, il y a une entente, une communion, et c'est une famille, c'est une vraie famille. Voilà. J'avais dit le cantique.